Marie-Claire Rondeau, qui est, bon, tant mieux, Maurice vient de faire la communication avec elle. Marie-Claire, qui est coordonnatrice qualité, processus, direction de la réadaptation au Centre de réadaptation Marie-Enfant, CHU Sainte-Justine. Bonjour Marie-Claire.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Oui, merci. Moi, je ne suis pas très ouverture à grande pompe. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de truc-là où vous étiez obligé de mettre vos talons hauts, avoir le sourire et être diplomate. Mais mis à part le début, disons, obligatoire, le centre hospitalier vient de se doter avec ce technopôle d'un ajout important là, pour l'avenir.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, le Technopôle en réadaptation en pédiatrique du CHU Sainte-Justine a ouvert ses portes au grand public officiellement le 8 avril dernier. C'est sûr que la construction en tant que telle de ce nouveau bâtiment-là, qui a été construit et annexé au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine à Montréal, dans le quartier Rosemont, s'est terminé là, à la fin mars, début avril.
Ouais. Donc, ça sentait encore la peinture lorsqu'on a ouvert le 8.
Tout à fait, puis ouais. Je vous dirais que ça sent encore le neuf.
Ouais. Je comprends.
Mais c'est d'une beauté, c'est magnifique.
Bon, Marie-Claire, selon le communiqué, le oui. Technopôle permettra de créer un espace de co-création et d'innovation entre les chercheurs, les cliniciens, les jeunes et leurs familles pour faire avancer les connaissances dans le domaine de la réadaptation pédiatrique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Effectivement. En fait, c'est beaucoup un jargon qu'on utilise, mm-hmm. la co-création, l'innovation. Et j'ajouterais même à ça, vous avez nommé trois acteurs importants, les cliniciens, les chercheurs, les familles.
Ouais.
Mais j'ajouterais également à ça la communauté, donc les organismes communautaires et les partenaires.
Oui, même Altergo est impliqué là-dedans. On y reviendra,
oui.
là, mais OK.
Oui, tout à
ouais.
fait. Donc, en fait, ce qu'on veut dire par tout ça, c'est habituellement, en général, avant qu'un projet de recherche soit actif, voit le jour d'un côté clinique, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en rassemblant tout le monde, donc en augmentant la proximité entre les acteurs, nous, ce qu'on veut, c'est diminuer ce délai-là, bien sûr. Mmh. Donc, c'est créer ensemble, innover, faire de la recherche sur le terrain avec tout le monde. Et dans le fond, c'est mettre la science au service de la réadaptation pour les enfants, et ça, dans des délais, qu'on va dire, raisonnables.
Mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça implique que chacun a son bureau dans le même bâtiment? Qu'est-ce qu'on est capable de faire qu'on n'était pas capable de faire auparavant?
Avant. Bon, écoutez, vous avez posé la question des locaux, des bureaux. Oui, il y a certains bureaux. En fait, on va retrouver certains bureaux de chercheurs, certains bureaux de cliniciens qui prennent part au projet de recherche, mais la majeure, ce sont vraiment, en fait, on a une douzaine là de plateaux techniques, si je peux résumer ça comme ça, dans le fond, et ce sont des activités qui sont reliées à 6 domaines, 6 types d'expertise. Marie-Enfant faisait déjà tout ça, mais là, on a ajouté à ça, en fait, la technologie. Donc, je vous parle de 6 types d'activités. Là, on parle d'entraînement à la marche, tout ce qui touche la rééducation. Bon, là, je vais utiliser le terme, le membre inférieur, membre supérieur. Donc, mm-hmm. on parle de jambes et bras.
On est habitué à ça ici. Ça va.
Tout à fait. Donc, on parle d'analyse des mouvements, la communication orale, la communication écrite.
Bien, c'est ça, on y reviendra un par un. Oui. Là, j'ai ça sur ma feuille en commençant par l'insertion de la participation sociale.
Oui.
Mais concrètement, donc, il y a ces plateaux-là, mais oui. qu'est-ce que ça va changer au niveau du pratico-pratique? Pour que ça accélère le fameux 10 ans, là.
Bien, d'une part, on a une dizaine d'équipements technologiques qui sont inédits.
Ah,
donc,
okay.
on parle ici du locomat. Et quand on parle d'équipements inédits technologiques, là, c'est en réadaptation pédiatrique d'une part, parce mm-hmm. que c'est très souvent en adulte, et on parle au niveau du Canada même. Donc ça, c'est des nouveautés qu'on ne trouve pas ailleurs.
Okay.
On parle du locomat, ça a déjà été diffusé fréquemment. Donc le locomat, qui est une aide de robotisée à la marche, et ce que ça fait, c'est que ça prend des mesures. Donc, l'enfant est installé dans le locomat ou même dans un float où l'enfant est en suspension et pourrait acquérir la marche ou tout ce qui est la locomotion. Et dans le fond, il y a des mesures qui sont faites. On peut aller à ce moment-là tester, OK, si on fait ça de cette façon-là, qu'est-ce que ça implique? Et là, on a les physiothérapeutes qui sont là, les chercheurs, on a même des partenaires qui disent, nous, tel aspect, on pourrait peut-être essayer ça, on pourrait peut-être développer ça. Donc,
le locomat fait partie, j'imagine, du plateau de réalité virtuelle et cybermobilité?
Non, okay. Ben, la cybermobilité, c'est plus au niveau, là, les cybermodalités, en fait, c'est plus au niveau là, de l'interactivité, là, Internet et tout ça, mais c'est plus au niveau de la locomotion, donc les déplacements à la marche, la rééducation des membres inférieurs, la réalité virtuelle qui est présente parce que l'enfant est représenté avec un avatar. Donc, il se voit. Donc, une meilleure représentation de lui-même. Il peut se projeter. Chose qu'on ne faisait pas avant, dans le fond. Donc, je voudrais que c'est ce qui change. Donc, c'est tout de suite, on a le chercheur qui peut être présent. On peut même élaborer des protocoles de recherche, comme, je m'excuse, mais live. Mm-hmm. Et on voit tout de suite le résultat. OK, on modifie tel paramètre, ça va donner ça. Chose qu'on ne pouvait pas faire nécessairement avant. On n'avait pas d'abord accès à ces équipements-là. On n'avait pas peut-être aussi grande facilité d'accès à tout le monde impliqué. Et la collecte de données également, qui peut parfois se faire manuellement avec des équipements de base.
Sommes-nous capables, et peut-être que ça fait longtemps, là, c'est pas nécessairement grâce au Technopôle qu'on est capable, mais de mettre en contact, supposons, le jeune Hans avec le chercheur qui est à Montréal, le spécialiste ou la famille qui, elle, est à Rimouski et finalement, tout le monde fait partie de la même session de travail?
Tout à fait. Oui, c'est sûr que de déplacer des équipements de cette envergure-là, c'est pas dans les plans, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait déplacer les gens dans la mesure du possible. Sinon, bien sûr, on a des salles où on peut faire en termes des salles de télécommunication, on peut faire de l'enseignement à large spectre, même dans les universités. Donc, c'est quelque chose également qu'on veut développer. Là. On veut rayonner, on veut être un chef de file, pas juste à Montréal, mais au Québec, au Canada, et si possible, là, de façon internationale également.
Je vois ici, Marie-Pierre, matériaux intelligent et prototypage.
Oui, en fait, ça c'est, je vous dirais, c'est un peu, c'est toujours intéressant de regarder ça, c'est de la création, souvent, je vais vous donner un exemple, là, de la création, exemple, d'orthèse ou de prothèse, on va dire une prothèse de main, c'est-à-dire que ça va remplacer la main. Donc, on la voit, elle se construit, on la fait, elle est modélisée à l'ordinateur. Donc, les ingénieurs sont là, les étudiants, ils font la conceptualisation et ils peuvent l'imprimer.
OK.
Ça peut prendre 1 à 2 jours et c'est imprimé à partir de plastique. Donc, elle est de façon en direct, elle est imprimée devant leurs yeux, elle prend forme. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté qu'on n'avait pas là. Après ça, ils font les essais, ils font les modifications. OK, on lance notre nouveau prototype.
Sciences du mouvement et médecine du sport?
Oui, donc sciences du mouvement, donc comme ça, comme je disais, c'est tout ce qui touche là, les déplacements, la locomotion et tout ça, les mouvements. Mais sciences du sport, en fait, c'est un volet également qu'on veut développer. Donc, tout le volet médecine sportive. Mmh. Vous avez parlé, là, je vous entendais parler tout à l'heure, là, du défi sportif. Mmh. Donc, oui, on a des sportifs qui font du sport et qui ont des déficiences physiques, intellectuelles, visuelles, peu importe, et qui participent. Et donc, c'est un volet également qu'on veut développer, le niveau, l'aspect sportif en réadaptation.
Insertion et participation sociale.
Oui, et vous parliez là, d'Altergo tout à l'heure. C'est sûr que nous, on a toujours eu un souci en ce qui a trait à l'accessibilité universelle. Donc, l'insertion, la participation sociale des personnes qui ont soit mobilité réduite, c'est ce qui nous concerne davantage ici à Marie-Enfant. Okay. On voulait être un modèle exemplaire quand on a construit, d'où le partenariat avec Altergo.
Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est que la bâtisse répond aux critères d'accessibilité universelle.
Tout à fait. Okay. Puis, donc, ils sont venus visiter, je pense, à quelques reprises au cours de la construction. Ils ont émis des recommandations justement pour éliminer ou réduire au maximum là, les barrières architecturales, là, s'il y en avait, puis même visuellement également.
C'est ce que j'allais demander juste avant la première marche de l'escalier qui descend. Là, m'avez-vous mis des petites tuiles avertissantes ou...
Écoutez... Est-ce qu'il y a des tuiles? En tout cas, je sais qu'il y a des ascenseurs partout, mais il y a beaucoup, effectivement. Mais je voudrais, il y a des codes de couleurs. Sur les planchers, il y a des codes de couleurs.
On va penser aux semi-voyants.
Tout à fait. Puis même dans le contraste, c'est très, très vitré, très lumineux. Donc, le contraste des portes avec les vitres, les coins de murs qui sont également en vitre.
Ah, c'est une bonne idée. En vitre?
Oui, tout est vitré.
Oui, mais donc, c'est parce que ça, si c'est translucide, je peux rentrer dedans sans... Si je vois juste un peu, là...
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des filtres. Il y a des filtres qui ont été mis avec des repères visuels également, mais je suis certaine qu'il y aurait il y a toujours d'amélioration tout ce qu'on fait. Sûr. On est encore, je vous dirais, des fois dans certaines, ce qu'on appelle, quand on livre un bâtiment, on est toujours dans la correction des, ce qu'on appelle des
Donnez-moi 20 minutes dans votre bâtisse, je vais vous trouver plein d'affaires. Marie-Claire Rondeau, en terminant, là, ce genre de truc-là est périmé après combien d'années? C'est bon combien de temps avant qu'on se dise « Hey boy, on n'est vraiment plus à la page. »
J'espère que ce ne sera jamais.
Okay.
J'espère que ce ne sera jamais. Pourquoi? Parce que, d'une part, le CHU Sainte-Justine et donc aussi Marie-Enfant, on a toujours le souci, les thérapeutes, on a le souci, les professionnels, de se dire « Est-ce qu'on fait la bonne chose au bon moment pour le bon jeune avec le bon outil? » Et ces outils-là, ben ça en fait partie. On parle de grosses machines ici, si je peux me permettre, mais c'est pas parce que c'est des grosses machines qu'on doit dire « OK, c'est fait, check, on passe à l'autre ouais. ». Au contraire, on parle d'entretien préventif, on parle de « OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» On est toujours en mode développement. Si on veut rester chef de file, si on veut réinventer la réadaptation pédiatrique puis offrir des services, des soins de pointe à notre clientèle, à nos enfants qui en ont besoin, jamais ce sera périmé.
Vous êtes bonne, Marie-Claire Rondeau. Je sens que vous auriez pu utiliser le langage du fonctionnaire, mais vous avez été claire et j'aime ça comme ça.
Bien, ça fait plaisir.
Donc, un bel ajout autant pour le Québec que le Canada que ce Technopôle en réadaptation, particulièrement pour les jeunes. Mais ce qu'on trouve pertinent pour les jeunes ensuite, bien, on le transfère pour les moins jeunes. Alors, finalement, ça profite à tout le monde.
Oui.